Bonjour à tous et bienvenue sur les Carnets de l'Alchimiste, un podcast où on expérimente l'écriture. Et je pense que ce sera la meilleure punchline, non, la meilleure baseline que j'aurai à trouver à ce podcast. C'est un podcast vraiment dédié à l'expérience autour de l'écriture, ouais, autour du monde de l'écriture. Et aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui fait beaucoup peur à toute personne créative dans ce monde. Et c'est dans le magnifique poncho de mon fils que je vais parler justement du syndrome de la page blanche, ou qu'on appelle par le joli nom, leucocélidophobie, à vos souhaits. Alors ce terme barbare, qu'est-ce qu'il désigne? Il désigne, et ça je cite, un trouble psychique de l'écrivain ou d'autres artistes se présentant comme l'impossibilité de commencer ou de continuer une œuvre. Et dans un sens, je suis tout à fait d'accord. Je sais pas toi, en tout cas moi je me souviens d'une personne qui avait répondu à mon post Instagram justement sur le truc, ce même post que j'ai dû très tristement supprimer parce qu'il y avait un visuel justement du carrousel qui n'était pas au bon endroit et qui avait pris la place d'un autre qui était fort important. Du coup, j'ai perdu ce commentaire, qui me disait justement qu'il n'avait jamais, jamais eu une seule fois affaire à ce syndrome de la page blanche. Personne, si tu m'entends, tu es mon héroïne. Je ne sais pas qui tu es, mais je te trouve fabuleuse. Parce que réellement, ça, moi, la page blanche, je l'ai eue plusieurs fois. Et quand je dis plusieurs fois, c'est autant quand j'écrivais que quand je dessinais. Et pour reprendre l'exemple justement du dessin, sache qu'avant, quand j'étais encore une jeune fille qui était encore sur les bancs d'école et mineure, j'ai fait des études justement en art plastique puis en graphisme pour être diplômée du nom pompeux de assistant au métier publicitaire. Chose que du coup je n'ai quasiment jamais utilisée de ma vie. Mais bref, enfin si, un petit peu quand même. Mais bref. Pendant ces années d'études, justement, en artistique, je pense que ma maman, si tu veux, s'il te plaît, commente, justement, le podcast que tu entendras. Quand je suis sortie de l'école, je l'ai dit à ma maman, l'école m'a complètement siphonnée, pour ne pas donner un terme plus vulgaire, si on a l'esprit déplacé comme moi. L'école m'a complètement siphonné mon imagination. C'est comme ça que je l'avais sorti. Pour dire à quel point je me sentais fatiguée et vidée de devoir créer quasiment tous les jours non-stop. Du coup, j'ai mis des années à reprendre un crayon pour pouvoir recommencer à dessiner. Alors qu'à la base, c'était vraiment le truc que je faisais le plus. Pour tout dire, dessiner, ça, c'était en moi depuis plus longtemps qu'écrire des histoires. C'est-à-dire que l'un des souvenirs que j'ai de plus fort avec un crayon, c'était moi, petite fille, sur la table basse de la première maison de mes parents, avant qu'on déménage, occupée de dessiner un bonhomme. C'est le souvenir le plus vieux que j'ai sur le dessin. Et après l'école, je me suis sentie comme vidée, sans aucune idée. C'était la première fois que je ressentais ça, et c'était étrange et même frustrant. Vraiment frustrant. Puis un jour, j'ai commencé à regarder les Draw With Me qu'il y avait qui commençaient à peu popé sur YouTube, et c'est là où j'ai eu envie de reprendre un crayon et de l'aquarelle. L'aquarelle, j'en avais déjà fait durant mes études, j'avais encore ma palette d'étudiante, mais c'est vraiment à partir de ce moment-là où j'ai commencé à explorer l'aquarelle de manière plus libérée, j'ai envie de dire. Il n'y avait plus le carcan de l'école où il fallait absolument suivre un exercice, mais là, je pouvais faire ce que je voulais avec ma palette, avec mes pinceaux et ma feuille. C'est à ce moment-là où j'ai commencé à recommencer à dessiner et surtout à faire de l'aquarelle plus régulièrement et vraiment par plaisir. Pour écrire, ça a été à peu près la même chose. J'ai réellement écrit après avoir lu peut-être 3 Harry Potter, voire 4. Ça a certainement sorti au moment, je saurais plus te dire quand exactement, que j'ai commencé à réellement écrire. Mais déjà avant d'écrire vraiment des mots, des histoires, sans support de dessin, j'avais déjà fait des petites bandes dessinées, justement. Je pense que j'en ai parlé dans un podcast. J'avais fait une petite bande dessinée, un peu en flip-it, je pense que ça s'appelle, ou flip-up. C'est ces petits bloc-notes, justement, où tu peux faire des dessins, et des dessins différents, et quand tu agites les pages, ça fait une petite animation. J'avais fait un petit truc comme ça, justement, qui racontait l'histoire de mon premier chat, à un jour de Noël, et je l'avais montré à mon grand-père, bah, justement, durant le repas. Je ne sais plus exactement ce que mon papy m'avait sorti, mais il avait vraiment apprécié justement cette histoire. C'est l'une des premières histoires que j'ai commencé à mettre sur papier, dont je me souviens le plus. Et pour les écrits, c'est des fanfictions surtout, que j'ai écrit dans l'attente de lire un nouvel Harry Potter. Comme beaucoup d'entre nous, de ma génération, je veux dire, c'est grâce à Harry Potter que j'ai commencé à beaucoup plus lire et que j'ai commencé à écrire plus que dessiner ou raconter des histoires. C'était devenu réellement cette fois un passe-temps, une passion. Car petite, même en dehors du dessin et des écrits, on a tous raconté des histoires. Autant toi que moi. On a tous raconté des histoires avec nos jouets quand on était enfant. C'est exactement ce que j'ai fait avec mes jouets, puis avec des dessins, puis avec de l'écriture. Et la page blanche, elle est vraiment arrivée vers ma majorité, j'ai envie de dire. Je ne pense pas exagérer en disant que c'est vers ma majorité où j'ai commencé à avoir vraiment ce syndrome qui a commencé à s'installer petit à petit pour rester ancré pendant peut-être bien 6 mois. 6 mois, voire plus. Et comme dit l'article que j'ai lu justement sur la page blanche, ce phénomène de la page blanche, il est dû à plusieurs choses qu'on a répertoriées, en tout cas moi j'ai répertorié sur la peur justement, l'angoisse à l'idée de ne pas réussir à mener à bien ton projet, à ne pas aller au bout, de ne pas le délivrer tout simplement. C'est aussi ce qui, moi, m'a bloqué pendant 3 ans à ne pas organiser un atelier d'écriture, comme je l'ai fait justement ce jeudi 9 décembre, où je me suis enfin décidée à le faire, après avoir eu l'idée de faire des ateliers pendant 3 ans. Donc il y a la peur qui peut être justement la cause de ce syndrome. Il y a le perfectionnisme aussi, l'envie de faire tout de suite quelque chose de bien et que tu n'aies pas besoin à repasser dessus. Spoiler alerte, excuse-moi, désolé, mais c'est pas possible. Rien n'est parfait dès la première fois où tu le fais. C'est tout à fait normal de ne pas y arriver. Je sais que c'est frustrant, que c'est plus facile à te le dire qu'à faire, et t'inquiète que moi-même, je suis dans les personnes qui ont envie de bien faire tout de suite, et que je travaille sur ce perfectionnisme justement pour dire que cette envie de délivrer de la qualité tout de suite dès la première fois ne me bloque pas à ne pas me mettre en mouvement. Parce que réellement, je pense que, au-delà du syndrome de la page blanche, donc de ne rien produire, ce qui est le plus frustrant, c'est de ne rien délivrer. Mais rien délivrer du tout. Ensuite, il y a aussi les distractions extérieures. Donc, tu aurais la tête trop remplie, soit trop remplie d'idées, soit justement une charge mentale, la fameuse charge mentale que toute personne qui vit avec d'autres personnes sous sa maison connaît. Bizarrement, moi, c'est depuis que je suis maman célibataire où je comprends enfin ce que c'est la charge mentale. Parce que bizarrement, je pense que la personne qui avait la plus de charge mentale quand je n'étais pas encore séparée, c'était mon ex. Et je n'ai pas peur de le dire aujourd'hui. Je suis certaine que c'est lui qui avait la plus grosse charge mentale quand on vivait encore ensemble. Donc il y a ça, il y a le trop d'idées en tête, la charge mentale, les soucis aussi du quotidien. Des soucis amoureux, des soucis dans ta vraie vie, dans ta vraie vie, bah oui, de toute façon tu es dans la vraie vie. Donc des soucis dans ta vie, par exemple au boulot, il y a peut-être quelque chose justement qui te torture tellement l'esprit que tu n'as plus de place justement pour écrire, pour créer. Qu'importe ce que tu fais, que tu fasses de l'écriture, que tu fasses du dessin, que tu fasses de la musique, que tu fasses du montage vidéo, on s'en fout tant qu'il y a quelque chose que tu peux produire, même de la couture, ça reste de la création. Du coup, tu restes quelqu'un qui peut être victime, justement, de ce foutu syndrome. On s'en fout, en fait, du support que tu utilises, justement, pour créer. Tu es quelqu'un qui crée. Tu es créateur, tu es créatrice. Donc, voilà. Tu fais partie des personnes qui peuvent, justement, attraper le syndrome. Il y a ça. Et aussi le fait, que, mine de rien, dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on fait ? On procrastine. On prend notre téléphone, on scrolle. On va sur YouTube et on se mate une infinité justement de vidéos. YouTube est très content. Pareil pour Netflix. On lance Netflix, on se lance une série. Puis après, au bout d'un épisode, vers minuit, tu te dis « Allez, encore un, ça va, je vais me coucher à 1 heure et ça ira. » Et pour finir, tu te retrouves à 4 heures du matin, toujours avec la série. Et Netflix est content parce que t'es resté sur sa plateforme. Mais voilà, c'est ce genre de solutions que notre cerveau trouve justement pour dire de se détendre et de nous rassurer comme quoi on fera mieux plus tard. Mais là tout de suite, ce qu'on a besoin, c'est d'être rassuré, c'est d'être dans notre cocon, c'est d'être dans un plaid tout doux que j'ai justement sur moi. Mais c'est pas la solution si tu veux vraiment sortir du syndrome de l'imposteur, mais du syndrome de la page blanche. Les manières que moi je te conseille justement pour en sortir, c'est la mise en mouvement. Et ça, merci Diane. Merci Diane Ataya pour ce super partage justement de la mise en mouvement. Mais c'est réellement de sortir justement de ce cocon, j'ai plutôt envie de dire, de ce marécage justement de l'inaction et de l'immobilisme. Par exemple, l'un des trucs que j'ai trouvé très aidant à sortir justement du syndrome de la page blanche, c'est ce qui a donné justement vie à mes ateliers d'écriture. C'est-à-dire, c'est de stimuler sa créativité. Et l'inspiration, elle peut venir de différents moyens. Par exemple, pour les ateliers, ce que j'ai mis en place, c'est justement un support visuel avec de la musique. Parce que moi, je trouve que la musique, quand tu te détends, quand tu laisses aller, que tu n'écoutes pas des paroles, par exemple, la créativité est 10 fois mieux stimulée, parce que justement ton cerveau lâche prise. Quand tu regardes un film aussi, ton cerveau lâche prise justement sur tes tracas, sur ta peur, sur ton perfectionnisme, il se détend et c'est là que les idées jaillissent. Par exemple, avec le film Luca, j'ai eu l'idée de reprendre justement l'un des concepts que j'avais mis dans mes petits tiroirs, qui était un voyage initiatique d'un membre des peuples de la mer, donc sirène entre guillemets, et qui viendrait sur Terre comme la communauté mormon, et je pense que je me trompe au niveau du terme, mais comme cette communauté justement qui vit reclus de la société moderne, et dont les jeunes, au moment de la majorité, vont en ville pour découvrir justement le monde moderne. Et au bout de X temps, je ne sais plus combien, ils décident soit de rester, soit de revenir dans la communauté. Et généralement, c'est ce qu'ils décident, c'est qu'ils retournent dans leur communauté. Parce que c'est leur zone de confort, c'est là où ils se sentent le mieux. Et puis il y en a d'autres qui se séparent de la communauté et qui restent dans le monde moderne. Mais bon, voilà. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que j'avais voulu faire une histoire, justement, d'un membre d'une tribu des mers qui va sur Terre pour découvrir le monde humain et faire une sorte de voyage initiatique justement sur Terre et qu'à la fin il décide de soit rester sur Terre, soit retourner à la mer. C'est un début de concept qui demande à être encore plus creusé. Un jour, certainement, je le ferai. Mais c'est en regardant, du coup, ce Luca avec mes enfants que j'ai eu ce déclic d'un début d'histoire que je voulais justement entre un triton et une humaine. Au départ, c'était juste ça. Je voulais une histoire qui raconte l'histoire justement de deux personnages complètement différents. Et c'est en regardant Luca où je me suis dit « Ah ben, ce serait sympa quand même que ce soit un voyage initiatique comme la communauté dont je t'ai parlé. » C'est vraiment au moment où je ne pense plus du coup à ce que je dois faire au niveau histoire que les idées viennent. Ce que tu peux faire aussi, c'est demander de l'aide. Je sais que c'est très compliqué comme conseil de sortir de sa zone, surtout de... Oui, de sa zone de confort, mais en même temps d'oser dire à quelqu'un « j'ai besoin d'aide ». On sous-estime même tellement le pouvoir de la parole. Ce que j'ai remarqué depuis que je suis sur Inside Freelancing, et je m'en rends compte que je vais certainement beaucoup en parler, c'est que discuter justement des problèmes que je rencontre en tant qu'entrepreneur, c'est que d'autres le vivent aussi. Que je suis pas toute seule en fait dans mon problème, dans mon souci. Qu'il y a d'autres personnes qui l'ont vécu, qui en font les frais encore maintenant, et toutes ces personnes ont des solutions. C'est peut-être pas la solution pour toi, comme mon atelier d'écriture n'est peut-être pas la solution pour toi, mais ça reste une solution que tu es tout à fait libre d'expérimenter. Et ça tombe bien, on est sur les carnets de l'alchimiste, c'est justement un podcast d'expérimentation. D'expérience. Donc voilà, les expériences, c'est la meilleure chose que tu puisses avoir dans ta vie pour voir qu'est-ce qui te correspond le mieux. Du coup, oui, n'aie pas peur de dire, voilà, je rencontre un problème, j'ai un syndrome de la page blanche, comment est-ce que tu fais, toi, pour en sortir? Il y a tellement d'auteurs sur Terre. Plus qu'on ne le pense, il y a ceux qui sont publiés et il y a ceux qui gardent encore leurs écrits pour eux. Et c'est bien. Il n'y a pas de mal à ça. Mais je veux dire, on est tellement, en fait, à faire ce genre de choses qu'on l'a forcément tous vécu. Et comme disait Thomas dans l'un de ses podcasts, l'intelligence collective, mais c'est un truc mais merveilleux. Ton voisin a certainement déjà eu ce genre de problème, alors pourquoi tu ne lui demanderais pas comment il a fait? La manière dont tu vas apprendre va être tellement plus rapide que si tu l'expérimentes toi tout seul dans ton coin. Alors n'hésite pas. Demande de l'aide. Demande, si tu as un compte Instagram, ben, fais une petite story avec un message qui demande à ta communauté comment est-ce que eux font pour sortir du syndrome. Tu auras tellement de réponses complètement différentes qu'il y a forcément une qui va te parler plus qu'une autre. Et que, bah, à ce moment-là, bah, essaye-la. Tu ne perds rien. Si par contre, parler à quelqu'un d'autre te stresse, mais vraiment beaucoup, que c'est trop inconfortable pour toi, alors moi, ce que je te propose, et c'est ce que j'ai fait aussi quand je me sentais mal et que je voulais dire des choses, mais je voulais pas aller parler à quelqu'un d'autre, je me suis enregistrée. J'ai pris mon téléphone, soit je prenais soit je lançais l'enregistreur vocal, désolé si je bafouille, soit je lançais la caméra et je parlais et je déballais tout ce que j'avais. Et du coup, bah, au final, ça a peut-être pas changé tout de suite, mais au moins j'ai pu sortir tout ce que j'avais sur le cœur et me débarrasser justement d'un gros poids. Si parler à quelqu'un qui n'est pas de ton cercle privé te dérange, mais que t'as quand même envie de parler à quelqu'un, parle à ton copain, parle à ta famille, ce sont des personnes qui souhaitent, normalement, vouloir prendre soin de toi. Et si vraiment ta famille et tes amis ne peuvent pas t'aider parce qu'ils ne comprennent pas justement ton syndrome de la page blanche, moi je peux aussi le faire. Moi aussi je peux t'aider. N'aie pas peur, tu peux m'envoyer un MP, on peut discuter en vocal, on peut se faire un call. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, si tu le veux, je mets dans la description justement un lien vers mon Calendly pour prendre un petit rendez-vous de 30 minutes qui est complètement offert. C'est faisable. Alors, ce que j'ai lu aussi comme conseil, c'était de ritualiser l'écriture. Alors moi, j'avoue, je ne sais pas si c'est efficace. Certainement que oui. Par exemple, pendant la période du nano, il y a beaucoup de personnes qui ont réussi à finir et à boucler leur premier jet. Moi, personnellement, je n'y suis pas arrivée parce que c'était trop contraignant pour moi. Je m'étais fait pendant un moment, d'ailleurs on peut le voir sur mon Notion encore pour l'instant, d'écrire pendant au moins 1 heure par jour. Ce qu'il y a, c'est que moi, ça me contraint plus qu'autre chose et ça me bloque le fait de ritualiser comme ça. Je lâche à fesser facilement, en fait, les rituels. Et je n'aime pas ça. Mais pour, par exemple, si tu veux un autre exemple d'une personne qui ritualise justement ses écritures, il y a Christelle Le Bailly, si je me trompe pas, qui, pour se mettre en route dans l'écriture, elle se met une playlist et elle marche dans son appartement. Ça reste un rituel qui fonctionne. Moi, je n'ai pas trouvé de rituel qui fonctionne pour moi. À part, peut-être, me mettre enfin en avant. Et quand je dis me mettre en avant, je veux dire par là, me mettre en mouvement, justement, à écrire. Et dans les ateliers d'écriture que je fais, bah, je participe aussi, justement, au fait d'écrire. Je ne reste pas 20 minutes à regarder les autres écrire et moi à rien faire. Mais j'écris aussi, et si je vois qu'il y a quelqu'un qui a du mal, j'essaye de l'aider à se remettre justement dans l'action. Un truc que j'ai remarqué qui était très efficace en tout cas pour moi pendant le séminaire de Thomas, c'était s'aérer l'esprit. Parce que en fait pendant le séminaire de Thomas, ça a duré 4 jours. En tout, ça a duré au moins une quarantaine d'heures. C'était 4 jours non-stop, où on a travaillé sur notre marketing et sur notre façon de communiquer sur notre métier, sur nos offres. Pendant ces 40 jours non-stop, donc de 8h jusqu'à 19h, c'était information en boucle, entrecoupée de moments de yoga et d'invitations à aller s'aérer l'esprit et à boire de l'eau. Et mine de rien, mais pendant cette expérience, je me suis rendu compte à quel point, quand je sentais que j'avais trop d'informations et que j'avais délivré trop d'énergie justement à rester concentrée, le fait d'aller dehors, de prendre l'air, de boire de l'eau, de bouger un peu à l'extérieur par exemple pour aller chercher du pain, mais en fait mon esprit s'aérait, c'est le mot, il s'aérait et j'avais des nouvelles idées qui popaient. Par exemple, les ateliers d'écriture, c'est en revenant justement de la boulangerie pendant le séminaire, où je me suis dit, mais je pourrais faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Allez, go! Et c'était parti, et voilà, les ateliers sont faits, alors que ça faisait trois ans que je procrastinais sur le truc. Il y avait la peur, il y avait l'envie de faire tout de suite quelque chose de bien. Et voilà. Et du coup, je procrastinais parce que j'avais pas envie de les faire à cause de tout ce que je t'ai cité juste avant. Voilà. Et voilà, j'ai t'ai cité tout ce que je pouvais te donner justement comme conseil pour sortir du syndrome. Déjà, le plus important, j'ai envie que tu te lâches la grappe. Alors en premier, pour sortir du syndrome de la page blanche, ce que je te conseille, déjà, c'est de voir où sont les fuites. Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu veux délivrer tout de suite quelque chose de parfait? Est-ce que c'est autre chose? Alors à ce moment-là, réellement, respire un bon coup et expire doucement. Vois les choses, prends-les, regarde-les tranquillement, avec compréhension, et lâche-toi la grappe. Ne te mets pas la pression. Le plus important, c'est que tu te mettes en mouvement et que tu fasses quelque chose. Ce n'est pas grave si c'est imparfait. Ce n'est pas grave si c'est pas comme tu le souhaitais au départ. Le plus important, c'est que tu aies fait. Et tu sais le faire. J'en suis convaincue, j'ai confiance en toi. Tu sais le faire. Si t'as envie participer aux ateliers d'écriture, vas-y. C'est en fait 1h30, pas 1 heure comme je le pensais, où on reste ensemble de manière détendue. C'est pas grave si tu fais que 3 phrases. Le plus important, c'est que tu aimes faire ces 3 phrases. Donc pendant 1h30, on divise 2 temps d'écriture de 20 minutes sur un support visuel accompagné d'une musique immersive. Après ces 20 minutes, on échange nos textes, on regarde s'il y a quelque chose qu'on peut améliorer, on s'encourage beaucoup et on kiffe le moment. Tu peux également t'inscrire à ma newsletter si tu veux plus d'informations sur des méthodes justement pour sortir et peut te mettre en mouvement justement pour écrire ou pour les ateliers. Si tu as des questions pour les ateliers, pas de problème, ma messagerie est ouverte. Si tu as la moindre question, si tu as un souci, une peur, mais que tu as envie d'en discuter, tu peux venir, pas de problème. Si tu as une problématique, il y a aussi la possibilité de réserver 30 minutes de discussion en visio avec moi. On parle ensemble, on dédramatise la chose, on discute, on voit ce qu'on peut faire justement pour t'aider. Et c'est cool. Si tu as aimé ce podcast, si ça t'a aidé, si ça t'a rassuré, je t'invite à y mettre une note. Moi, j'aimerais bien 5 étoiles pour ceux qui sont sur Apple Podcast. N'hésite surtout pas à t'abonner pour suivre les prochains épisodes. Et on se retrouve sur Instagram, on se retrouve en newsletter. C'est là où j'apporte le plus de détails dans mes conseils. Et d'ici là, prends soin de toi. Tente, teste, expérimente des choses en écriture ou même dans ta vie. Et d'ici là, prends soin de toi encore une fois. Et à la semaine prochaine. Bisous.